Le deuxième était le Transistor.
Donc je suis maintenant toujours en contre-altéridé avec Gérard Wamser qui va intervenir très prochainement sur une conférence intitulée Internet Échange Contrôle. Et à mes côtés, Guilhem de Esprit Critique qui va mener avec moi l'interview. Esprit Critique est une des associations partenaires des rencontres altéridé. D'abord, deux petits mots de présentation de Gérard Wamser. Alors Gérard Wamser, vous êtes philosophe et éditeur et fondateur et directeur de Sens Public. Une revue dont vous nous direz peut-être un petit mot en cours d'interview pour la présenter à nos auditeurs. Peut-être d'abord laisser la parole à Guilhem s'il veut introduire l'interview.
Déjà qu'il faudrait dire qu'à la base, normalement cette conférence, on devait avoir quelqu'un qui venait parler d'Adopi, donc le secrétaire général d'Adopi, et finalement ce sera vous qui interviendrez dans cette conférence, donc avec un discours qui sera différent. Donc on voudrait savoir effectivement comment vous voyez les choses et peut-être voilà, quel côté justement vous allez pouvoir défendre dans cette conférence.
Il ne s'agit pas évidemment que je reprenne la position ou que je crée une polémique avec quelqu'un qui ne serait pas là. Donc ça peut pas être vraiment le sujet de fond dont on va même parler dans l'entretien. Je suis allé voir le site de l'Adopi pour voir comme ça, et par exemple la dernière publication en date sur ce site, c'est le compte-rendu d'une réunion qui a dû se faire au Salon du Livre à Paris tout récemment, sur les questions régulation, livre numérique, etc. J'ai envie de dire qu'on est à des milliers de kilomètres de la réalité du travail éditorial, tel qu'on le pratique, c'est-à-dire que rien sur les conditions de la création et de la manière dont les auteurs peuvent écrire, rien sur les réseaux de réception, ce que les lecteurs peuvent en penser, les dimensions de sites participatifs. Prenez par exemple le travail de quelqu'un comme François Bon avec son site remu.net qui crée un espace littéraire à la fois d'interlocution, de création, de discussion, et pour lesquels les questions liées à la régulation marchande de l'espace littéraire paraissent simplement une étrangeté anthropologique. On est à des milliers d'années-lumière des conditions réelles de la création intellectuelle. Donc on peut bien sûr créer des organismes de régulation, mais c'est pas ça qui va nous créer les Mallarmé ou les Paul Valéry du 21e siècle, qui évidemment n'ont jamais régulé leur propre activité en fonction des codes juridiques dans lesquels leur travail allait ou non pouvoir s'insérer.
La thématique, c'est quand même celle du meilleur des mondes. Et le meilleur des mondes, est-ce que ce n'est pas aussi un monde de surveillance, un monde où effectivement il y a des règles à ne pas transgresser, ça veut dire voilà, des normes. Aujourd'hui, on parle du droit d'auteur, on parle de ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, surtout avec Internet, on peut le voir, est-ce qu'on n'est pas en train de dévier, et donc la question du droit se pose quand même?
Bon, alors, il faut voir que le droit d'auteur est une invention récente et a correspondu au moment de l'industrialisation de la culture. Avec les chemins de fer, le livre a été au 19e siècle le moment de l'industrialisation de la culture. Alors, la presse a pu se sustenter grâce à la publicité à partir de 1860 à peu près, les choses étaient à peu près cadrées, et donc on n'a pas fait peser sur les auteurs ou sur les lecteurs des charges économiques excessives. Le développement de la presse allait de fait avec une quasi-gratuité. En revanche, il a été peu habituel de mettre des pages de publicité à l'intérieur des livres. Et donc le modèle de l'édition n'a pas accompagné le modèle de la presse. Et j'aurais envie de dire, en étant peut-être un peu provoque, que si la question du droit d'auteur se pose, c'est parce qu'on n'a pas cherché à diffuser la culture du livre à travers des modèles publicitaires. Ceci dit, si on voulait approfondir un peu ce sujet, il faut quand même savoir que l'édition française aujourd'hui vit pour l'essentiel à travers des publications prescrites. Le livre scolaire, les manuels en tout genre, sans parler des calendriers des postes ou des bottins téléphoniques qui sont plus tout à fait de mode, mais ce qui fait vivre les imprimeurs, ce qui fait vivre les éditeurs, ça n'est évidemment pas les ouvrages de création. Et ce qui fait vivre les éditeurs plus que tout, ce sont leurs systèmes de distribution. Ce qui fait vivre un éditeur comme Le Seuil, Gallimard ou Hachette, c'est le fait d'être propriétaire de chaînes de diffusion d'ouvrages. Ils ne vivent absolument pas des rétributions, même en termes de vente aux lecteurs, des ouvrages qu'ils éditent eux-mêmes. En revanche, il y a un énorme clivage entre les petits éditeurs qui font un travail au service de la création et qui, généralement, quand ils réussissent, se font racheter par un plus gros et qui, autrement, font faillite tranquillement, et les gros éditeurs ou les relativement gros éditeurs qui peuvent être propriétaires d'un système de diffusion. Et c'est sur le système de diffusion que vit l'économie de l'édition. Donc c'est le modèle antérieur dont le modèle Adopi, dont le modèle de diffusion Internet s'inspire aujourd'hui. À savoir que ce sont les entreprises de télécom, ce sont les entreprises de vente en ligne, ce sont les entreprises liées à la publicité par les moteurs de recherche, pensons à Google, qui ont relayé ce que faisait la librairie Hachette au 19e siècle et ce qu'ont fait les réseaux de diffusion de Gallimard ou d'autres entreprises au XXe siècle. Donc on est sur cette logique-là.
Sauf qu'on ne peut pas non plus appliquer ces modèles qui fonctionnaient pour la presse ou pour le journalisme à un nouveau média, enfin un nouveau média plus si nouveau que ça, qui est l'Internet, qui est quand même un média qui a ses codes particuliers, qui a ses méthodes particulières. Et le deuxième mot de la conférence à laquelle vous allez participer, échange, traduit bien ce nouveau système, parce que le livre, à la limite, une fois qu'on l'a acheté, l'échange peut s'arrêter. Internet, on a un échange permanent, constant et beaucoup plus direct avec entre le producteur et le consommateur, entre guillemets, le lecteur, voilà, peu importe, qui peut commenter, qui peut se faire commenter, qui peut balancer un tweet, qui peut mettre un statut sur Facebook. Voilà. Alors, comment allier cette totale liberté du côté de l'échange et ce qui pourrait être quand même un contrôle minimal, en fait, une modération peut-être.
Il y a deux choses très différentes ici. D'une part, c'est la question purement économique. On sait que l'économie marchande fonctionne sur la capture d'externalités. Donc aujourd'hui, si on différencie le travail industriel et cette dimension culturelle, disons, de l'Internet, je ne rentre pas dans les détails, on peut y venir si vous voulez, mais si on est sur cette dimension culturelle, l'essentiel de la valeur vient d'un travail spontané et bénévole des utilisateurs des réseaux. C'est que, comme vous venez de le dire, s'il n'y avait pas de participation, de visibilité en ligne, de coopération des lecteurs ou des utilisateurs, il n'y aurait zéro possibilité de trafic captif à valeur commerciale pour Google, France Télécom, Orange ou quelconque des opérateurs. Donc le génie des opérateurs télécom d'aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à utiliser la matière grise des utilisateurs et de prétendre ensuite s'approprier la valeur qui en dérive. Donc ça, c'est purement de la théorie économique. Il y a des modèles qui permettent de comprendre pourquoi on se bat aujourd'hui pour capturer la matière grise spontanément proposée par les lecteurs. L'antimodèle de ça, c'est évidemment une fondation comme Wikimedia qui a créé un outil extraordinaire puisqu'il est créé de façon bénévole mais qu'il reste à but non lucratif et que même s'il y a des dons en ligne vers la fondation Wikimedia et même si on peut discuter dans le détail de la gouvernance de Wikipédia, il reste que le travail bénévole des utilisateurs des réseaux est restitué gratuitement aux lecteurs qui peuvent même donc contribuer éventuellement à transformer en fonction de leurs travaux les différentes pages de Wikipédia. Donc on voit bien comment sur ce modèle économique il y a au moins deux modèles, un modèle de captation de valeur et un modèle au contraire de redistribution de valeur. Si j'étais un tout petit peu rigoureux, je dirais qu'en toute logique, les réseaux télécoms devraient redistribuer à leurs utilisateurs une partie prépondérante de la valeur qu'ils accumulent, puisqu'ils ne peuvent pas créer de valeur pour eux, Google, Amazon ou Orange, sans capturer le travail des lecteurs ou des utilisateurs. Et à ce titre, s'ils versaient non pas des dividendes à leurs actionnaires, mais des ristournes à leurs utilisateurs, l'économie du web serait évidemment radicalement différente. Donc, et puis par ailleurs, mais ça on y vient peut-être après, il y a toute la dimension contributive, alors qui est hors économie, mais qui évidemment forme la partie émergente de la création, puisque, et sur ce point, au risque de vous décevoir, je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisqu'il n'y aurait jamais eu d'invention scientifique, technologique ou culturelle sans des réseaux spontanés de contribution, et que qu'il s'agisse des poètes de la Pléiade au XVIe siècle, qu'il s'agisse des groupes humanistes au XVe, qu'il s'agisse des encyclopédies, le bédiste au 18e, on a là des réseaux sociaux parfaitement constitués pour lesquels les correspondances, même transportées à cheval, avaient bien le rôle des réseaux sociaux et des logiques Internet d'aujourd'hui pour permettre à des gens de collaborer ensemble dans un espace de reconnaissance et de recommandation.
Pour vous, finalement, le système Adopi ne devrait pas exister ? On a l'impression que dans votre discours, il n'y a pas une réelle utilité de
Selon moi, effectivement, je pourrais vous la faire en deux façons différentes. L'une, je vais éviter, parce que ce serait long, c'est de rapprocher le système Hadopi à ce qu'était le système d'autorisation préalable et de censure avant 1760, auquel certain Malesherbes a mis un terme. Ouais, ce serait voilà un autre chapitre, mais j'ai écrit sur ce sujet. On pourra mettre les références sur un site.
Oui.
Et l'autre versant, ce serait de considérer que l'Hadopi ne se justifie que pour protéger des intérêts particuliers de ce qu'on appelle en France les industries culturelles. Et il est vrai qu'il y a de ce point de vue-là une différence fondamentale entre l'univers nord-américain et l'univers français. Peut-être européen, continental, plus généralement, à savoir que pour l'univers nord-américain, il y a une différence de nature fondamentale entre ce qui est à visée commerciale, les industries culturelles, l'entertainment, pour lesquelles il est naturel que les majors retrouvent des rétributions, que ce soit Walt Disney ou d'autres opérateurs. C'est naturel que s'il y a une diffusion en ligne de dessins animés ou de vidéos, il y ait des droits reversés aux opérateurs, qui ne sont pas nécessairement les créateurs intellectuels, mais qui sont les studios, voilà. Et d'autre part, un espace non lucratif. Comme vous savez, aux États-Unis, dans beaucoup de cas, avec de l'argent public, les presses d'université jouent un rôle d'opérateur culturel dont nous n'avons pas l'équivalent en France. Donc, si vous voulez, dans le cadre d'une législation nord-américaine, vous avez une séparation culturelle assez forte entre ce qui fait l'objet d'échanges non marchands, donc à but profitable pour la community, et ce qui fait l'objet d'une appropriation privée, mais pour laquelle chacun connaît les règles, après tout, si on veut être consommateur de feuilletons et qu'on veut les télécharger moyennant finance, libre à soi. Mais il n'y a pas une unicité de législation. A contrario, en Europe, et en France en particulier, on a le souci de l'unicité de législation et de ne pas créer de distorsion de marché. Et donc paradoxalement, malgré qu'on dise que les lobbies sont très puissants aux États-Unis et qu'en Europe, on ne voudrait pas avoir les mêmes, en réalité, ils sont beaucoup plus puissants en Europe qu'aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de lobby de la liberté d'expression en France, alors qu'aux États-Unis, vous auriez des lobbies de la liberté d'expression et du Freedom of Speech Act, qui est le premier amendement de la Constitution américaine. Vous n'avez rien d'équivalent en France, et face aux opérateurs de télécom et aux grands éditeurs, ou à Canal+, ou à d'autres opérateurs vidéo, vous n'avez pas l'équivalent de l'esprit public qui viendrait défendre les droits du lecteur, les droits du spectateur, les droits de l'internaute. Donc en ce sens, Hadopi est entièrement au service d'opérateurs marchands, au détriment, je dirais, des intérêts constitués que sont ceux des étudiants, des chercheurs, des innovateurs. Et ça se fait au détriment de la dimension d'expérimentation qui est consubstantielle avec l'espace de liberté d'échange qu'est celui de l'Internet. Donc c'est ça qui me paraît extrêmement important.
Autant de questions que vous allez aborder dans la conférence à laquelle vous allez vous rendre sans plus tarder, voilà. Je pense.
Vous me demandiez, mais je conclue ici, vous me demandiez d'expliquer un tout petit peu ce qu'était le dispositif de la revue Sens Public.
Oui, Sens Public, oui, on allait oublier.
Et donc le nom,
on aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement.
Le nom est tout à fait emblématique, et cette expérimentation visait justement depuis maintenant une dizaine d'années à associer des chercheurs confirmés à des étudiants doctorants dans un esprit de partage et de coopération sur la création intellectuelle en visant précisément à démontrer, on l'a déjà fait en partie, à démontrer que les modèles de filtrage, qu'il s'agisse de la sélection au concours, qu'il s'agisse de la légitimité des disciplines, qu'il s'agisse de la position sociale des auteurs, n'étaient pas grand-chose relativement à la qualité du travail, à la qualité de l'interlocution et des échanges, et que sur ce point, Sens Public est à la fois un dispositif de revue numérique, mais aussi un dispositif d'organisation de colloques et de conférences, et de participation à des initiatives comme celle-ci, initiatives étudiantes, initiatives en réseau, avec une très forte connotation internationale. Parce que la grande difficulté, pour terminer sur Hadopi et environ, la grande difficulté, c'est que, alors même qu'on voudrait faire valoir des règles générales ou génériques, dans la réalité des choses, il n'y a aucun moyen d'accorder entre elles les pratiques qui se feraient en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, pour ne pas parler du Brésil, de la Chine ou de la Corée. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important d'avoir des initiatives indépendantes du type de celles de Sens Public qui permettent de faire coopérer entre eux des gens qui sont au Canada, à Taïwan, en Afrique ou ailleurs, pour montrer que la créativité humaine ne commence pas par se demander si elle marche dans les passages cloutés.
Très bien, merci beaucoup Gérard Wamser. Thank you.